Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International pour continuer notre semaine d'actualité dédiée évidemment au football. Et nous commencerons par un quadruplé pour le Barça. Les Blaugrana ont remporté dimanche le 4e Clasico de la saison. Malgré le triplé de Kylian Mbappé, le Real Madrid a encore perdu cette confrontation et les Merengue ont donc dit adios au titre de champion d'Espagne. Les Barcelonais courent eux et si vite et si bien vers un doublé Liga Copa del Rey. Carlo Ancelotti avec le Brésil, c'est officiel. La Confédération a annoncé en grande pompe que l'entraîneur italien du Real Madrid sera à la tête de la Seleção do Brasil pour la Coupe du Monde 2026. Pour quelle mission ? Remettre de l'ordre ou remporter une 6e étoile ? Eric Frozio, notre correspondant à Rio, nous en dira plus en direct de Rio. Des invités dans ce studio, vous allez voir, le panel est riche aujourd'hui. Alors d'un côté, nous avons un Camerounais qui s'appelle Benjamin Moukandjo. Bonjour Benjamin.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Ravi de vous accueillir dans ce studio aujourd'hui. Alors vous n'êtes pas venu seul et on s'est dit on ne va pas le laisser sur le banc quand même, ça ne se fait pas. Bonjour Stéphane Mbia.
Bonjour Annie.
Merci beaucoup de nous faire l'amitié de vous
On n'aurait même plus le laisser sur le banc parce que de toute sa carrière, il a toujours été titulaire. À un moment donné, il faut qu'il goûte un peu.
Oh mais vous le capitaine, vous ne pouvez pas dire ça.
En plus Benjamin. Il est chauffé le banc.
Il est chauffé. Alors on a deux Camerounais d'un côté, deux lions indomptables. De l'autre côté, on a d'autres lions. Mais alors là, c'est des lions plus gentils, dit-on. Des lions de la Teranga. Bonjour messieurs, bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Je salue les lions indomptables. Voilà, deux amis également en dehors du football. C'est des gens très sympas.
Et bonjour, également. Voilà. Bonjour Ziad Fakhri, bonjour. Merci d'être là.
Bonjour, merci de me recevoir. Ben, bonjour à tous.
On adore quand vous passez ici, que vous quittez Dakar et que vous restez quelques temps avec nous. Eh bien, on vous assoit aussi dans notre studio pour parler football. Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission. David Finzel aussi, bien sûr. Et Laurent Salerno est à la réalisation. Le magicien Radio Foot, c'est parti.
Caracolea Pedri, conecta con Ferran, Ferran dentro del área, apertura para Lamine que le pega.
Le Barça trouve un Real complètement déjà détruit, c'est 4-0. Premier match.
Oui, en automne dernier.
Voilà. Deuxième match, nous allons à 5-2, c'est-à-dire que l'écart s'est réduit. Troisième match.
Pardon ?
On y va. Parce que c'est de la même façon que le Real revient toujours.
Oh là là, Kylian, venia pressionar el Fútbol Club Barcelona.
Troisième match. On va en prolongation. Prolongation et tout le monde est content.
Goal !
Lorsque vous regardez le premier match et le dernier match, vous voyez que qui a progressé ? C'est le Real.
Vous l'avez reconnu, bien sûr, Benjamin.
J'ai reconnu
Stéphane
sa voix.
Aussi, d'ailleurs.
Bien sûr.
Bon, là, le camp camerounais, vous avez un handicap, là. Le handicap Rémi.
Oui, j'ai reconnu la voix, mais je n'étais pas surpris aussi des propos et de toute l'analyse qu'il a apportée. Même n'est-ce dans pas. Les défaites du Real, il nous explique toujours que le Real progresse. Et bon, c'est du grand Rémi.
Bon,
hein.
Eh ben, c'était du grand Rémi, mais c'était surtout du grand Barça. 4-0. Un quadruplé, donc, de victoire pour ces Blaugrana. Quatrième rencontre de la saison. Hein. On s'était amusé en disant vous reprendrez bien encore un classico. Et les joueurs du FC Barcelone ont donc imposé leur loi sur le terrain, renversé un scénario qui, a priori, était à leur désavantage, puisque le Real a d'abord mené sur le score de 2-0 pour finalement s'incliner 4-3, on se serait cru en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais. Mais ça se termine mieux pour le Barça. Et, oui, exactement. Et ça a épaté l'entraîneur de ces Blaugrana, Hansi Flick.
Après notre élimination contre l'Inter Milan en Ligue des Champions, faire ce genre de performance, c'est fantastique. La mentalité, l'attitude, c'est exceptionnel. On sait qu'à chaque erreur dans nos transitions contre Madrid, on peut se faire piéger, car en face, il y a de très bons attaquants. C'est compliqué de jouer face à eux, on doit encore progresser. Je sais que remporter 4 classicos, c'est quelque chose qui marque nos supporters. Battre 4 fois le Real sur une saison, c'est fantastique. Le plus important pour moi, c'est d'avoir 7 points d'avance sur eux. Il nous faut une victoire pour être champion.
Stéphane Biya, je vais commencer par vous. Hein, comme on n'a pas trop l'habitude de vous entendre, eh bien, on a envie de vous entendre sur ce match. Est-ce qu'ils sont trop forts, les Barcelonais ?
Non, non, c'est vrai qu'ils ont, eu un échec en demi-finale.
Demi-finale retour et dans les prolongations.
Oui, effectivement. Non, ils sont dans la continuité. Le coach a dit qu'ils sont en pleine progression. Et c'est l'équipe jeune avec quelques cadres qui ont un certain âge. Ils forment un très très bon, une très très belle équipe. Je pense qu'ils sont dans la continuité de pouvoir gagner le championnat en fin de saison.
Mmh. Ziad, comment avez-vous regardé ce énième classico de la saison avec curiosité, avec gourmandise, au moins au départ en tout cas.
La gourmandise parce qu'il y a eu beaucoup de buts. Mais après, est-ce que la victoire du Barça est étonnante? Non, on a l'impression que c'était... juste la confirmation que l'écart...
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont menés 2-0 et qu'ils renversent toujours. Enfin, oui. Et ce n'est pas la première fois que ça leur arrive de la saison.
Mais ça montre aujourd'hui la fébrilité de ce Real-là face à un Barça qui est de plus en plus conquérant. Et on voit aujourd'hui que ces deux équipes-là, il y a un fossé un peu qui s'est creusé tout le long de la saison. Et on n'est pas, en tout cas moi je ne suis pas surpris de cette suprématie, en tout cas dans les classicos du Barça, qui fait que d'augmenter à chaque fois depuis le début de la saison.
Euro, 4 sur 4, ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup sur une saison, surtout que Madrid n'avait pas l'habitude de faire une saison blanche. Cette saison, c'est blanc, blanc comme le maillot du Real, exactement.
Non, 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 non. Alors, attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, et je pense que c'est des amis de Rémi, oui. Et qui nous disent qu'ils ont gagné la Supercoupe d'Espagne, oui, oui. Et qu'ils ont aussi gagné le Mondial des clubs, oui. Contre les Mexicains de Pachuca. Là.
Oui, mais bon, sur la scène européenne, c'est quand même rien du tout. Quoi. Ça pèse pas grand-chose.
Bon, après, il y aura on ne peut pas gagner non plus tous les ans.
Oui, ça c'est vrai. Mais cette saison, nous on fait du factuel. Nous sommes des journalistes sur cette saison. C'est catastrophique. Ils perdent 4 fois. Ils sont éliminés en Ligue des Champions. Ils ne seront pas champions d'Espagne. La seule chose qu'ils auront peut-être, c'est le titre de Pichichi.
On va en parler. On va en parler. Benjamin, cette folie un peu de but, alors évidemment je faisais référence à ces matchs épiques entre Inter et Barça, aller comme retour, hein, rappelons-le, 13 buts en 2 matchs, là on en a encore 7 des buts dans un... Est-ce que c'est le futur du football finalement? Parce que ces matchs-là, les gens adorent finalement, vous entendez dans la rue, tout le monde vous parle de ces matchs-là. Finalement, ouais. Le Paris Saint-Germain, qui est une équipe parisienne, ok, ils ont gagné, ils sont qualifiés, mais ce qui marque, c'est ces espèces de folie tout d'un coup dans un match.
Oui, parce que c'est un spectacle. Je pense que quand on est téléspectateur ou même spectateur, quand on va à un stade, on a envie de voir des buts. Mais quand on est joueur ou alors quand on est entraîneur et qu'à la fin, on a quand même son équipe qui prend 3 buts, comme par exemple Barcelone qui va en prendre 3, un triplé de Kylian Mbappé, on sent qu'il y a quand même du travail défensif des deux équipes. Ça veut dire que défensivement, c'est quand même faible.
Est-ce que ce n'est pas dû à la jeunesse de ce Barça qui a un peu de folie dans son jeu et qui a tendance, comme contre l'Inter, à un peu perdre le fil à un moment et prendre 3 buts? Parce que quand on regarde là sur les 3 derniers gros matchs qu'ils ont eus, ouais. Il y a 3 buts à l'aller contre l'Inter, 3 buts au retour et encore 3 buts au Real. Ils ont réussi à en mettre 2 de plus contre le
oui.
Real.
Mais c'est vrai qu'on dit que pour gagner un match, il faut toujours marquer 1 but de plus que son adversaire. Mais moi, je pense qu'en ce qui concerne le Barça, c'est le système qui l'a fait défaut aujourd'hui. Parce qu'Hansi Flick a mis un système en place où on voit une défense qui est très haute. Et moi, c'est ça qui m'interpelle parce que je me dis qu'un grand entraîneur comme lui... Il sait que les autres font de la vidéo, forcément. Il découvre, il voit les failles qu'a cette équipe sur le plan défensif.
Et malgré tout,
et quand
gagne.
On voit les buts que Barcelone prend aujourd'hui, c'est quasiment similaire. C'est très souvent dans le dos, c'est très souvent dans la profondeur parce qu'ils ont énormément de mal à gérer la profondeur. Mais c'est vrai qu'offensivement, ils sont portés par le talent individuel des joueurs qui sont exceptionnels.
Mais peut-être que c'est même un parti pris. De je prends non, autant
accepte,
de risques.
On accepte de voilà. Prendre énormément de risques.
On accepte mais de prendre
pour
ce
ça,
risque.
C'est
là.
Peut-être pour ça que ce n'est pas passé contre l'Inter.
Exactement. Mm-hmm. Parce que l'Inter est trop rigoureux.
Ouais. Un nouveau participant dans cette ronde dans le studio aujourd'hui, Patrick Juillard, bonjour.
J'ai bravé les embouteillages, bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous.
Alors ça c'est une
désolé
excuse Rémi Ngono, alors voilà. Ça passe pas du tout à Radio Foot. Patrick, en écoutant ces propos, est-ce qu'aussi peut-être que le Barça, on sait d'où ils viennent ces derniers temps, c'est-à-dire avec des moyens limités, un réservoir illimité que leur offre la Masia, mais malgré tout, ils n'avaient peut-être pas trop le choix non plus cette saison. Peut-être qu'Hansi Flick, c'est ça la limite.
Non, moi je pense que, comme Ziad, je pense que c'est un choix délibéré du coach. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu au Bayern Munich, Hansi Flick. Il ne regarde pas les stats défensives, il regarde les stats offensives. Donc là, il a pris 3 buts. Alors, évidemment qu'on peut dire que c'est des buts évitables, que c'est toujours la même cause qui produit les mêmes effets. Et Benjamin a raison. Mais je pense qu'au final, lui, ce qu'il veut, c'est que son équipe, ça soit de la dynamite, ça soit comme on parlait des oranges mécaniques à une certaine époque pour certaines équipes. Là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il broie les adversaires et il leur impose un volume de course, un rythme intenable, et au final, les failles. Et ils tiennent. Oui, alors, il y avait des petites circonstances atténuantes, avec quand même l'absence d'un joueur comme Alex Baldé pendant un mois et demi, qui est quand même un de ceux qui a le plus la combinaison entre les qualités défensives et les exigences offensives du Barça. C'est un peu un petit Hakimi en devenir. Si on peut comparer.
Primaire Vivien Foé.
Voilà, donc c'est pour ça.
Bonne référence.
Et donc, mais je pense que pour moi, c'est un choix délibéré. Alors, il va essayer d'améliorer les choses, mais il ne va pas renier ses principes. Pour lui, c'est marcher sur les adversaires et essayer de mettre le plus de buts possible.
S'ils n'ont pas assez de force défensivement, Stéphane Mbia, par contre, ils ont une force mentale incroyable, non ? Même ces très jeunes joueurs du Barça.
Ouais, c'est à l'image de la structure en elle-même. Et puis, le coach, je crois, sur l'interview précédente, il a parlé de progression. Je pense que je rejoins Benjamin. Ils ont une palette large sur le plan offensif et ils se permettent de faire des choses extraordinaires. C'est une très, très belle équipe. Mmh.
Alors, en face, le Real n'a pas réussi son coup, c'est-à-dire réussir à s'imposer ou à arracher un match nul. Et celui qui a marqué à lui seul, c'est Kylian Mbappé, un triplé. Le buteur des Merengues semblait cependant regretter d'être un peu seul.
J'ai une grande confiance en moi. Comme je l'ai déjà dit, je ne me fixe aucune limite. Si je peux marquer 50 buts, tant mieux. Si je peux en mettre plus, je le ferai. J'ai été meilleur buteur à plusieurs reprises. L'année dernière, en Ligue des Champions. Mais est-ce que je l'ai gagné pour autant ? Non. Alors, donc ça m'est égal d'être le Pichichi. Si je le suis au final, tant mieux. Mais je veux remporter des titres. C'est le plus important.
Il est venu, dit-on, à la Casablanca pour ça, Benjamin. En même temps, être au Real Madrid, effectivement, il y a la pression, toujours gagner. Certains se contenteraient déjà d'y jouer et d'y figurer. Il se sent un peu seul quand même à l'attaque. Alors eux, si on parle de déséquilibre du Barça, Là, le Real, c'est un ensemble qui n'est pas coordonné, c'est ça ?
Oui, je pense que si vous vous rappelez bien, Annie, la question avait été posée dans le Café des Sports, si c'était la fin d'un cycle du côté du Real. Moi, je disais peut-être pas, peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est réellement la fin d'un cycle. Il va falloir changer, notamment, on a vu Carlo Ancelotti qui ne sera plus l'entraîneur avec tant d'années et tant de victoires. Maintenant, pour revenir à Kylian Mbappé, je pense que sa saison, elle est bonne pour moi. J'entends des gens qui disent que non, il ne réalise pas une grande saison. Pourquoi ? Parce que le Real ne gagnera pas un titre. Mais à titre personnel, un joueur qui vient d'arriver dans un club, certes, qui a gagné beaucoup de titres, il faut s'intégrer. En début de saison, on disait à juste titre qu'il n'était pas bon. C'est vrai parce qu'il n'avait pas encore trouvé sa pleine attitude. Là, aujourd'hui, un mec qui est meilleur buteur, il sera probablement le meilleur buteur de la saison, qui a marqué une trentaine de buts pour une première saison dans un club.
38 buts à un nouveau poste. 53 matchs.
Parce que ce que les gens oublient aussi de dire, c'est que c'est un nouveau poste. Il découvre ce poste de numéro 9. Pour moi, bien sûr, c'est un compétiteur. Il est parti parce qu'il avait envie de gagner la Ligue des Champions. Parce que les titres, il est gagné déjà avec le PSG. Il lui manque cette Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il fait le choix de partir au Real. Maintenant, c'est une saison à oublier du côté du Real. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Il y a eu des blessés. Vinicius qui n'est pas le Vinicius de l'année dernière. Rodrigo qui boude parce que voilà, il demande plus de temps de jeu. Et puis au milieu, ils ont quand même perdu un joueur qui était essentiel, Toni Kroos, qui n'a pas été remplacé. Donc le choix du président est surprenant. D'avoir décidé de faire venir que Kylian Mbappé pour construire son équipe en vue d'aller défendre son titre de Ligue des Champions était un choix surprenant parce que défensivement, on a vu Tchouaméni qui jouait derrière, qui n'est pas son poste. On a vu que quand il était au milieu, il était nettement mieux. Donc, la responsabilité ne peut pas que revenir sur un joueur qui est arrivé cette année. C'est un choix du club. Et le choix, il s'est trompé là-dessus.
Stéphane ?
Oui. Non, Kylian, il a eu un moment d'adaptation en début de saison où il a été critiqué. Ben, je pense que ce n'était pas mérité. Et puis, il entre dans un... dans une sphère, une institution incroyable qui est le Real Madrid. Et puis, il arrive à faire une telle belle saison et il a l'équipe qui ne suit pas. Je pense qu'avec le nouvel entraîneur, il va changer énormément de choses pour pouvoir améliorer et pourquoi pas gagner différents titres la saison prochaine.
Il peut être le Pichichi, comme on dit en Espagne, c'est-à-dire le meilleur buteur. Donc, je le disais, total de 38 buts en 53 matchs. Mais surtout, il double un certain buteur chilien.
Antes de la disputa de este partido, atención ese balón de Michel, a buscar a Zamorano, Zamorano está dentro del área, atención a Zamorano, vaya golazo que acaba de marcar Iván Luis Zamorano, Zamora.
Luis Zamorano, on se souvient de ce joueur, ce chilien de l'équipe du Real Madrid, il avait marqué lui. Alors, il faut être précis dans les chiffres, n'est-ce pas ? Parce qu'il avait marqué 37 buts en 45 matchs. Là, on en est à 38 en 53. En tout cas, il bat un record du Real. Et donc, si on écoute Benjamin et Stéphane Yoro, il tire son épingle du jeu, Kylian.
Je vais reprendre la fameuse phrase de César qui disait « Vini, vidi, vici ». Lui, il pourra dire « Je suis venu, j'ai joué, j'ai marqué ». Voilà.
C'est une variante.
Pour moi, battre le record de Ivan Zamorano déjà pour la première saison, on oublie qu'il y a eu Benzema, il y a eu des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Jamais quelqu'un n'a marqué autant de buts sur sa première saison avec le Real Madrid. Ce qu'il a fait est énorme. Surtout, Zamorano, c'est un joueur que j'adorais, que j'aimais. Moi, je l'appelais... On l'appelait Supercopter à l'époque.
Ivan Zamorano.
Oui, hein. Il n'était pas très grand, mais il avait une détente et un jeu aérien bien supérieur à celui d'Mbappé. Alors, il peut encore gagner une autre distinction. C'est le soulier d'or européen, puisque pour l'instant, il est devancé par Gyökeres et Salah. Mais il peut encore les battre s'il fait encore un... qui marque encore des buts.
Il reste encore plusieurs matchs en Espagne.
Que sur les quelques journées qu'il reste. Mais moi, je pense quand même que quand il dit « je m'en fiche d'être Pichichi », je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'il en est très fier. Et je pense aussi
que... C'est un discours officiel, n'est-ce pas, messieurs les joueurs ?
J'ai entendu deux anciens joueurs qui nous disent qu'il fait une belle saison parce qu'ils résonnent comme des joueurs.
Exactement.
Un joueur est toujours content d'avoir des résultats, de jouer beaucoup, de marquer beaucoup. Mbappé peut l'être. Maintenant, aux yeux du public, aux yeux des supporters, aux yeux des observateurs, je m'inscris en faux. Sa saison n'est pas bonne.
Ah bon ? Parce que... Ils ne sont pas qu'anciens footballeurs, ils sont camères aussi. Donc.
Oui, certes.
Ah oui, il y a une petite filiation.
Mais parce que sur les matchs... Les matchs qui pouvaient sauver vraiment la saison du Real, notamment en Ligue des Champions, le compte n'y était pas.
Mais ce n'est
pas que lui. Mais si on part du principe qu'il a mis beaucoup de buts, donc que ça sauve sa saison, il n'a pas mis assez de buts dans les gros matchs pour aussi sauver celle de son club.
Quand tu perds contre Barcelone 4-3 et que tu as ton attaquant qui met 3 buts, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Qu'il mette 5, qu'il mette 6 ?
Ça, c'est vrai.
Donc,
sur
à un moment donné, on
ne
peut pas uniquement reposer la responsabilité des échecs de l'équipe sur lui.
C'est
lui, il fait le boulot. On l'a recruté pour marquer des buts. On a dit, tu viens, tu vas jouer numéro 9.
Mais lui, il dit...
Tu dois nous marquer des buts. C'est ce qu'il fait tous
les
week-ends.
Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, individuellement, est-ce qu'il a réussi sa saison ? Évidemment.
Oui.
On ne peut pas mettre autant de buts sur sa première saison une institution comme le Real.
Exactement.
Et dire qu'on n'a pas réussi sa saison. Après, est-ce que c'est suffisant pour l'institution Real ? Sûrement
ça,
pas. Mais
en
tant que président,
clairement.
Florentino Pérez, aujourd'hui, il se dit « je suis allé chercher un seul joueur à l'intersaison, il a mis 30 buts, il finira sûrement meilleur buteur du championnat, il a pour lui réussi son coup individuellement.
Ouais. »
Après, collectivement, et ce qui est marquant sur ce dernier match-là, c'est qu'on voit la jeunesse barcelonaise qui prend le pouvoir, et en face... Une équipe qui a perdu Kroos, qui n'arrive pas à se régénérer, un Modric vieillissant, même si, attention, quand il est là, on voit la différence. Mais aujourd'hui, oui, Kylian a réussi sa saison, mais ce n'est pas suffisant pour le Real de Madrid dans le côté, on va dire, collectif.
Yoro, alors il est en compétition, non pas avec un jeune, mais quelqu'un qui est même plus âgé, qui s'appelle Lewandowski, qui a marqué pour l'instant 24 buts, 3 de moins pour l'instant. Lui, il en est à 27. Est-ce qu'il va le conserver, selon vous, cet avantage ?
L'avantage est énorme, d'autant plus que Lewandowski revient de blessure.
Oui.
Il n'a pas joué ses derniers matchs.
Il n'a pas joué
un peu ménagé encore.
Et exactement. Et donc, il est en roue libre.
Le temps joue pour Kylian.
Stéphane, quand on voit ce championnat espagnol, on a eu longtemps cette compétition à travers paire de personnages qui étaient Messi et Cristiano. Est-ce qu'on peut imaginer que la saison prochaine, on aura Mbappé d'un côté et Lamine Yamal de l'autre?
Oh, peut-être pas. Bah, oui, peut-être, peut-être. Je pense que c'est une nouvelle génération. Kylian l'a prouvé au Paris Saint-Germain. Le petit Yamal est en train de faire des choses exceptionnelles pour son âge. Je pense que l'année prochaine sera, bien sûr, Kylian d'un côté et c'est du business. Il faut savoir qu'il y a,
ça rajoute à la compétitivité.
Exactement. Donc il y a encore deux institutions. Il faut savoir que le Real a gagné énormément de titres et puis voilà, je pense qu'on a la chance.
Moi j'avais une question pour vous. Quel est le joueur le plus difficile à gérer en tant que défenseur central, Mbappé ou Lamine Yamal?
Kylian. Moi, je pense Kylian parce que
Stéphane n'aimait pas qu'on parte dans son dos.
Non, je parle Kylian parce que il a cette capacité à pouvoir se retourner très rapidement, appeler en profondeur. Bien sûr que j'étais aussi un peu à cette époque-là un peu, mais il est complet. Kylian est complet. Et puis là, le petit Yamal, il a cette facilité à pouvoir éliminer sur le côté et puis remettre un peu à la Robben, un peu à la. Moi, je pense Kylian, parce qu'il est complet, il est très complet.
Alors, une star qui pourrait lui faire de l'ombre donc la saison prochaine, mais qui était déjà dans l'œil d'une ancienne star du football mondial. Qui a regardé Lamine Yamal avec un œil intéressé? Écoutez ce petit échange.
Non, on va bien, mais...
Thierry Henry,
non? Me va que la fête. Espera que... Non, primero, non. Hay que firmar.
Alors... Ça vous fait sourire, Benjamin, et ça nous fait tous sourire. Mais c'est évidemment cette scène qui a été enregistrée à la fin. Alors, ils s'étaient mis d'accord, hein, tous les deux. Un lui demandant le maillot, donc ouais. Thierry Henry, ancien d'Arsenal, mais surtout ancien du Barça, demandant à Yamal son maillot. Et le petit Yamal, qui manque pas de répartie, lui a dit bah, d'accord, mais seulement si tu m'en donnes un, que ce soit d'Arsenal ou du Barça, je m'en moque. Et tous les deux, en fait, avaient chacun échangé le maillot à la fin. C'est des jolies scènes entre générations. Justement.
Oui, mais c'est pour aussi montrer que ce petit, entre guillemets, a pris de la maturité malgré ses 17 ans. Aujourd'hui, il est pas tout le monde. Quand on le voit jouer, on a les yeux grands ouverts et de voir un joueur comme Thierry Henry qui a quand même une carrière extraordinaire. Je sais qu'il va lui prodiguer quelques petits conseils, d'autant plus que maintenant il est passé de l'autre côté, hein. Il est consultant, donc il analyse énormément de matchs. Mais l'image, elle est belle. Moi, je l'ai vue. Ça m'a fait chaud au cœur de voir un gamin parce qu'il a encore les pieds sur terre. Ça se voit qu'il est bien entouré, sa famille. Et puis, il est dans un club familial où on sait que ces joueurs-là ont fait très attention, comme on a fait attention à Messi pendant des années, pour qu'il puisse être à ce niveau-là. Maintenant, il est vraiment sur une seule saison où il nous a épatés.
Oui,
c'est vrai qu'on attend
capital,
de voir la saison prochaine. Capital. Mais moi, je n'ai pas de doute là-dessus sur la qualité de ce joueur. Je suis persuadé que s'il reste tel qu'il est avec le travail, il y a de fortes chances qu'il puisse arriver là-haut.
Stéphane Mbia, quand vous dites, vous avez cité Robben, et c'est vrai qu'on a l'impression avec ce joueur qu'on sait ce qu'il va faire d'avance. On essaye de l'empêcher, mais qu'il y arrive toujours.
Ouais, je parle de Robben, mais t'as Léo, t'as Messi qui faisait un peu pareil. Mm-hmm. C'est Messi. Messi, c'est 8 ballons d'or, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que ce que Benjamin a dit, il faut qu'il aille sur la durée. Il a la chance d'être dans un club familial et je pense que ça va lui donner plusieurs idées pour qu'il puisse avoir des meilleurs résultats, des meilleures prestations.
Alors, ce Barça est-il en route et tranquillement pour un doublé championnat Copa del Rey, Patrick Juillard?
Oh oui, je pense. Je vois pas vraiment.
Il reste 3 matchs hein, en championnat non, mais et la finale de la Coupe du Roi.
L'avance, plus la cette confiance, plus cette victoire dans le Classico, elle est importante parce qu'elle intervient après une cruelle déception qui est l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Et donc, elle permet à l'équipe d'effacer un petit peu et d'ouvrir une nouvelle. De tourner la page rapidement. C'est ce que l'OL n'a pas su faire après le désastre de Manchester. Ils sont restés dessus avec un échec dans le derby. Sombré. Là, au contraire, le Barça, après quand même une déception majeure, a réussi à un petit peu l'atténuer. Mmh. Et donc, je pense que ça va leur donner assez de force pour aller au bout. Donc moi, je vous réponds oui sans hésitation.
Le Barça champion d'Espagne, Ziad.
Oui, je rejoins Patrick. Et en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte
c'est
que
la récompense d'un jeu aussi, d'un style.
Et finalement, il n'y a pas de. J'aime pas cette expression qui dit qu'il y a des défaites encourageantes, mais je pense que
ah oui, tiens, ça nous rappelle quelqu'un. Vous n'êtes pas ami David Bey.
mais ce qui est intéressant pour le Barça, c'est que cette défaite finalement de l'Inter, je pense qu'elle va leur servir. Parce que par rapport à leur
défaite
jeunesse,
face à l'Inter.
La défaite, oui, l'élimination, elle a fait mal. Ils ont su vite se remettre dedans parce qu'il y avait des échéances très importantes. Finalement, ce Classico était très important. Ils ont su le faire. Et je pense que c'est un mal pour un bien parce que cette jeunesse-là du Barça va apprendre derrière
prendre l'expérience.
Ça. Et ils ont un joueur, vous parliez de Yamal tout à l'heure, ils ont ce joueur-là qui est finalement, quel que soit le club qu'on supporte ou l'équipe qu'on veut qui gagne, on a la chance d'avoir un joueur de cette qualité-là. Et ces défaites-là et ces matchs-là vont le faire progresser, tant individuellement que collectivement pour le Barça.
Le Real va-t-il vers une saison blanche ou presque blanche donc, hein, Yoro, il y a des nuances. La fin d'un cycle, on l'évoquait. En tout cas, Carlo Ancelotti a été interrogé tout à l'heure. Et même s'il confirme sa nouvelle nomination sur laquelle on reviendra ensuite, mais en tout cas, il tient la barre jusqu'à la fin de la saison.
À partir du 26 mai, je serai sélectionneur du Brésil. C'est un défi très important. Mais aujourd'hui et jusqu'à cette échéance, je reste l'entraîneur du Real Madrid. Et je tiens à bien négocier cette dernière ligne droite pour mettre un point final à cette histoire exaltante. Je veux que cela se termine le mieux possible. Je sais que vous vous intéressez à ce que je pense et à ce que je veux faire. Mais je dois penser aux jours qu'il me reste à passer ici, à Madrid, parce que j'ai un respect immense pour cette institution, pour les joueurs et pour les supporters. Donc je suis totalement concentré sur ce que j'ai à faire pendant les ultimes semaines de cette formidable aventure.
Totalmente focalizzato en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura spettacolare.
Yoro, aventure spectaculaire, ça sent la fin évidemment et on va parler surtout de son avenir ensuite, mais Carlo Ancelotti, là, de toute façon, il termine deuxième de cette Liga. Est-ce que pour vous, c'est une saison blanche?
Moi, je crois qu'elle est blanche parce que quand même, quand ils prennent Mbappé, ce n'était pas pour sortir en huitième, je ne sais pas, en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce n'était pas pour rater le titre en Espagne. Et ce n'était pas non plus pour perdre la Coupe du Roi. Parce que l'année dernière, avec des joueurs moins bons, ils avaient un attaquant qui est parti après. Rossellou, qui part en Arabie Saoudite ou au Qatar, qui marquait peu de buts. Ils sont champions d'Europe. Quand on se renforce avec Kylian Mbappé, on doit espérer faire mieux. Malheureusement, ils font moins. La preuve, il n'est pas gardé alors que son contrat n'est pas terminé.
À la décharge d'Ancelotti, il y a quand même eu des absences importantes, notamment en défense, notamment celle de Militao.
Il n'avait pas de défense, on va dire.
Qui va retrouver en tant que sélectionneur. Carvajal. Voilà, Carvajal qui est quand même un joueur clé, surtout un taulier pour l'équipe, un joueur de vestiaire important. Alors, ce n'est pas pour, évidemment...
Mais ça, c'est quand tu
mais après, la faute... Hein. La faute majeur incombe au président, comme le dit Benjamin.
Bah oui.
Si vous mettez tout sur un seul joueur, aussi fort soit-il, le foot, c'est un sport collectif.
Est-ce qu'on lui enlève un jouet aussi en lui, finalement, en le changeant avant le Mondial des clubs ? Le Mondial des clubs, cette nouvelle compétition qui va se dérouler aux États-Unis, Benjamin ?
Je pense que là, c'était la bonne solution pour lui et même pour le club. Parce que quand moi, je regarde encore les matchs, je l'ai senti par moments un manque d'inspiration. Et ça, c'est très rare chez lui. Un manque de solution même, souvent. Donc, je le voyais, il était un peu perdu sur son banc. J'ai l'impression qu'il était un peu déconnecté de ce qui se passait sur le terrain. Est-ce que quelque part aussi, lui, dans sa tête, il n'y était plus ? C'est possible, c'est fort possible même. Et le fait d'avoir fait ce choix, il le dit, hein, au 26 mai, je ne serai plus sélectionneur. Ça veut dire qu'il attend juste la fin.
Je serai sélectionneur, justement.
Je serai plus entraîneur du Real. Donc, pour lui, la page, elle est tournée. Il reste certes trois matchs, il va les faire, parce que c'est ce qu'il
Ils
faut faire.
Deuxième, hein,
mais
clairement.
Au fond de lui, il sait très bien qu'il n'ira pas jusqu'à gagner le titre. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions il va arriver, parce que c'est un poste qui sera nouveau, c'est un poste de sélectionneur, c'est quasiment pas la même chose.
En tout cas, la porte est grande ouverte pour un certain Xabi Alonso, qui a déjà annoncé qu'il quittait le Bayer Leverkusen, et donc on sait qu'il est attendu depuis un an d'ailleurs, et c'est ça peut-être aussi, ça fait un an qu'on murmurait le nom de Xabi Alonso pour le Real Madrid, et l'année dernière, alors qu'on murmurait déjà son nom du côté du Brésil, il avait prolongé en Real. Des fois, c'est pas forcément... Alors, il avait prolongé dans le sillage d'une victoire en Ligue des Champions. Oui. Incroyable.
On a toujours cette fameuse question, mais on la pose maintenant parce que ça s'est mal passé, entre guillemets. Il finit deuxième. Et au Real, finir deuxième, c'est que c'est une saison qui s'est mal passée. Mais aujourd'hui, on le dit parce qu'il a fait cette saison. Est-ce qu'il n'a pas fait la saison de trop? Mais je rejoins Benjamin quand il dit qu'on a l'impression qu'il subit la situation. Il est sur son banc où il l'a subi. Bon, ce n'est pas quelqu'un de très démonstratif depuis toujours. Mmh. On a toujours loué ce calme-là. Et aujourd'hui, qu'il perd, on se demande pourquoi il ne réagit pas. Mais il a toujours finalement été comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas l'inspiration. On ne retrouve pas ce petit coup...
De la saison dernière, par exemple.
Ce génie tactique qu'il avec avait à un moment où ça pouvait faire débloquer. Mais il a moins de solutions aussi.
C'est ça.
On va se rendre au Brésil justement pour continuer, nous aussi, l'aventure d'Ancelotti. On va se projeter là-bas, mais pour l'instant, avant la magie des ondes, celle de la musique, Uli Costa et Sandalia de Preta, le titre c'est « Roupa de Tirar ».
Como é que eu faço pra te ver de novo? Me diga como te encontrar. Chega de papo, eu quero te pegar, te amassar. Beijar pra te amar, eu vou lá. Pode pá, tô com a roupa de ir, a roupa de tirar. Que eu vou lá te encontrar, pra te ver, pra te ter, pra beijar, pra te amar. Eu vou lá, pode pá, tô com a roupa de ir, a roupa de tirar. Mostra como dedilhar nessa luz do amanhã que entra no seu quarto. Se seu lençol, cobertor, travesseiro. Demorou, 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 beijo meu corpo inteiro. Tenho certeza que vai ser gostoso. Baby, já volto pra continuar. De ir a roubar, de tirar. Que eu vou lá te encontrar, pra te ver, pra te ter, pra beijar, pra te amar. Eu vou lá, pode ir pá, tô com a roupa de ir a roubar, de tirar. Que eu vou lá te encontrar, pra te ver, pra te ter, pra beijar, pra te amar. Eu vou lá, pode ir pá, tô com a roupa de ir a roubar, de tirar. Que eu vou lá.
Uli da Costa et Sandalia Di Preta, Roupa de Tirar, c'est sur la playlist de RFI.
J'ai le grand plaisir de vous annoncer l'arrivée d'un renfort extraordinaire. La sélection du Brésil, la plus grande équipe nationale de l'histoire du football, sera désormais dirigée par l'entraîneur le plus titré au monde, l'Italien Carlo Ancelotti.
C'est une bonne nouvelle, une sacrée surprise. On va voir s'il arrive à faire décoller la Seleção et reproduire ce qu'il a fait avec le Real Madrid.
Ancelotti sera en charge de l'équipe nationale lors des prochains matchs éliminatoires du Mondial, mais aussi lors du tournoi l'année prochaine. Il a une mentalité de gagnant, c'est le seul coach au monde à avoir remporté 5 Ligues des Champions et il a évolué dans les 5 championnats majeurs en Europe.
On vit une période de turbulence et pas seulement sur le terrain. Les entraîneurs brésiliens n'ont pas l'air d'avoir suivi l'évolution du football, donc je pense que c'est important d'avoir un nouveau regard. Et j'apprécie beaucoup Ancelotti pour sa vision de groupe.
Il restera en poste jusqu'à la fin de la saison de Liga. Je tiens ici à remercier tout particulièrement le président du Real Madrid pour la compréhension, le dialogue et l'engagement dont il a fait preuve pour rendre cet accord possible.
Habemus Seleccionador au Brésil. La Confédération a donc annoncé triomphalement que sa plus grande sélection de l'histoire du football avait l'entraîneur le plus victorieux. Alors cela confirme un doux rêve, hein. Cela fait un an qu'on murmure là-bas le nom de Carlo Ancelotti. Bonjour Eric Frozio.
Bonjour Annie, tout bien?
Boa tarde Eric. Eric, racontez-nous, on en avait déjà parlé, on l'avait évoqué, il vient pas, il sera là, il sera pas là, c'est confirmé. Mais racontez-nous un peu le contexte de cette prise de guerre qui a pris un peu de cours aussi, Carlo Ancelotti.
Effectivement, ouais, c'est un drôle de contexte. Vous dites que ça fait un an, mais ça fait même deux ans hein, qu'on en parle de Ancelotti. C'est vraiment la novella qui était devenue interminable et qui commençait à agacer un peu les Brésiliens. Et puis, alors qu'effectivement l'ambiance se réchauffait entre les deux parties, et ben, Ednaldo Rodriguez, le président de la CBF, il a pris tout le monde de court puisqu'il a annoncé, contrairement à ce qu'il était prévu de faire avec le Real Madrid, il a annoncé tout simplement la signature de Carlo Ancelotti. C'était pas il n'a pas vraiment respecté le programme, mais il l'a fait parce que il a dans un souci en fait c'est une stratégie plus ou moins politique hein, pour redorer un peu son blason parce que le président de la CBF est dans une situation compliquée, il est sous la menace d'une destitution pour avoir en fait enfin en tout cas il est accusé d'avoir plagié la signature d'un ancien président de la fédération brésilienne, le colonel Núñez. D'avoir plagié sa signature pour prolonger son mandat qui va courir jusqu'en 2030. Donc il y a une enquête qui est en cours. Le colonel Núñez devait se présenter au tribunal de justice de Rio ce lundi, hier donc, pour s'expliquer. Finalement, il s'y est pas rendu pour des raisons de santé. Bref, en tout cas, pour résumer, le président de la CBF, il a pris tout le monde de court et il a voulu redorer son blason, son image et annoncer effectivement, comme il le dit, le plus grand entraîneur de l'histoire au sein de la CDSAN et puis pour peut-être essayer de calmer les esprits et de réchauffer son image, tout simplement.
Oui, parce que ça fait longtemps que cette équipe brésilienne se cherche un sélectionneur. C'est donc fait, ils vantent le CV de Carlo. Je vais d'abord demander à nos invités, il manque quand même une ligne sur ce CV, Benjamin, c'est qu'il n'a jamais été sélectionneur, Carlo Ancelotti.
Il est adjoint, non, je crois, en Italie, non?
Non.
Même pas?
Non, je crois pas.
Ah, si, si, en 94. Ah. Si. D'accord. Il était adjoint d'Arrigo Sacchi, ouais.
Ah oui, ouais. 94, ça doit rappeler quelque chose aux Brésiliens.
Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai dit toujours qu'il y a une différence entre être sélectionneur et un entraîneur de club, parce qu'un entraîneur de club, on a les joueurs au quotidien, tous les jours, toutes les semaines, on a la possibilité de mettre quelque chose en place, un jeu, hein, sa philosophie en place. Et quand on est sélectionneur, on doit sélectionner les meilleurs joueurs et pouvoir les faire jouer en un laps de temps. Parce qu'on n'a pas énormément de temps de travailler. Et le Brésil, on sait que c'est un pays, bien sûr, qui a envie de gagner, qui a la conquête des titres
toujours
qu'ils ont perdus depuis des années. Mais aussi, le Brésil, c'est un pays où on a envie de voir du beau football. Mais quand je regarde quand même Carlo Ancelotti, c'est pour ça que je me demande s'il est Brésil compatible. C'est que c'est un entraîneur qui sait gagner. Mais quand on regarde au Real, ils ont gagné énormément de titres, mais ce n'était pas forcément en pratiquant le meilleur football possible. Donc maintenant, est-ce que les Brésiliens vont accepter cette philosophie-là d'un entraîneur à l'italienne hein, qui va venir et qui va mettre bâtir son équipe à la défense et essayer d'aller gagner des titres et se priver du beau jeu que le Brésil a souvent l'habitude de nous procurer.
Alors répondez-nous, Eric, parce que quelle est la répercussion là-bas? Tout à l'heure, on entendait certains supporters dans l'introduction de cette partie de l'émission. Mais comment c'est perçu le style de jeu? C'est pas vraiment le foot samba avec Carlo Ancelotti?
Non, c'est sûr, mais c'est surtout que c'est pas la priorité du moment en fait. Hein. C'est comme si voilà, vous êtes cassé la jambe, la priorité c'est commencer à remarcher avec des béquilles et ça va être l'objectif de Carlo Ancelotti, c'est faire regagner la sélection tout simplement, regagner des matchs. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de défaites qui s'enchaînent, beaucoup de buts encaissés, donc c'est redonner un style, en tout cas une solidité à cette équipe et la faire redevenir potentiellement la faire rentrer dans le top 10 mondial tout simplement quoi. Après le beau jeu ça viendra peut-être après, en tout cas c'est pas ce qu'on va lui demander quoi, que Ednaldo Rodriguez le président de la Fédé il lui demande de gagner la Coupe du Monde peu importe les moyens. Simplement. Et je pense qu'ils veulent faire un peu comme en 94 hein, Carlos Alberto Parreira la baguette. Ça jouait pas bien, c'était ennuyeux, il y avait absolument pas de, de beau football, à part le duo Romario Bebeto, mais sinon, c'était pragmatique et c'est ce qu'on va lui demander, tout simplement. Il faudra gagner. Et je pense que le style Ancelotti, je pense qu'il est compatible avec le contexte du moment, quoi. Essayer de retrouver tout simplement le goût de la victoire avant de retrouver le beau jeu.
Euro.
Comme l'a dit mon ami, je crois que c'est un autre métier d'être sélectionneur. Parce que j'ai discuté avec Patrice Baumel il n'y a pas longtemps. Il me dit quand il quitte l'Afrique, il a eu des entretiens avec des clubs de Ligue 1 en France. Il a été recalé parce qu'on lui disait tout le temps que vous êtes fait pour la sélection et non pour un club de football. Mais lui, Carlo Ancelotti, je crois et je pense qu'il peut réussir parce que sa force dans un vestiaire, c'est justement être une sorte de directeur des ressources humaines. Et c'est ce qu'on va lui demander au Brésil.
Oui, en plus, Ancelotti, c'est quelqu'un qui, dans toute sa carrière, a toujours géré des vestiaires de stars, de joueurs exceptionnels avec des gros égos, souvent des gros effectifs où il fallait faire des choix et éviter que ça soit la discorde dans le vestiaire. Donc je pense qu'il a les qualités pour. Après, je pense qu'il a le même. Il sort d'un chantier au Real Madrid avec un effectif disloqué, des absences dans des postes clés. Là, c'est pareil au Brésil. Mmh. Il n'y a plus de défense au Brésil. Il y a un milieu de terrain indigne du Brésil. On ne parle même pas de retrouver le Brésil de Tele Santana, mais au moins qu'il y ait de l'inspiration, au moins qu'on ait le Brésil de Kaka, de ces joueurs-là. Ah, oui. Là, on est encore en
Kaka,
dessous.
C'est déjà pas mal.
Oui, voilà. Mais donc là, il va devoir faire des choix. Il va peut-être devoir reprendre des joueurs qui ne viennent plus. On dit qu'il a appelé Casemiro, par exemple.
Alors, justement... Eric, il a appelé des anciens, il a appelé Casemiro, effectivement, ancien du Real, hein, il l'a bien connu et qui, on l'a vu avec Manchester United, hein, là, ils vont être en finale de la Ligue Europa. Et puis, il a appelé Neymar.
Ouais, ça, ça allait de soi. Hein. C'est sûr que Neymar, c'est l'étoile du Brésil, donc il était assez évident qu'il lui passe un coup de fil. Il a voulu aussi prendre la température pour savoir dans quel état physique il était. En l'occurrence, il est encore en convalescence, j'allais dire, une nouvelle fois. Encore une blessure à la cuisse qui l'empêche de jouer et qui va l'empêcher d'être convoqué pour les matchs internationaux du mois de juin. Donc, mais il aurait quand même dit qu'il comptait sur lui et qu'il avait besoin de lui pour la Coupe du Monde 2026. Donc Neymar, il sait qu'il y aura un coup à jouer. Après, Casemiro, effectivement, c'est le lieutenant, le shérif d'Ancelotti. Il a besoin d'un joueur comme lui pour remettre un peu d'ordre dans le vestiaire, dans son groupe, avoir un joueur de confiance. Il n'est pas exclu non plus qu'il appelle Thiago Silva, même s'il a 39 ans, mais c'est un joueur qu'il adore, en tout cas qu'il adorait quand il était à Milan puis au PSG. Il y a Richarlison aussi, qui connaît bien depuis l'époque d'Everton. Et puis, il y a d'autres petits nouveaux.
Dont on... Sûrement.
Bruno Guimarães, je pense
Paqueta,
aussi.
Ouais,
je pense que c'est un joueur qui peut lui plaire.
Ouais.
Paqueta, bon, lui, il a des chances d'être banni du monde du football. Donc,
dommage
c'est
pour le
difficile.
Brésil,
mais voilà, en fait, sachez que quand même, Ancelotti, vous dites que c'est un nouveau métier pour lui, mais les Brésiliens, il les connaît par cœur. Il en a dirigé plus de 40 dans toute sa carrière. Et parmi les plus grands, effectivement, les stars, les joueurs difficiles, les Ronaldo, les Ronaldinho, Vinicius Junior, il y en a eu un paquet. Donc, franchement, il connaît les Brésiliens, les fêtards, les plus sérieux, les évangéliques. Donc, je pense qu'il saura les gérer dans un vestiaire et dans un contexte différent. Ouais.
Ziad, vous y croyez, vous, à Ancelotti avec le Brésil pour une Coupe du Monde?
Déjà,
c'est un peu une opération commando. Hein.
On aime bien l'idée, c'est un entraîneur mythique, une sélection mythique.
Ah, oui.
L'idée
c'est un
belle.
Beau mariage.
C'est un beau mariage. Après, ce qui va être intéressant, c'est il va apporter un peu cette rigueur-là qu'on a toujours un peu mis en avant en disant que cette sélection du Brésil n'en a pas assez. Il va apporter sa rigueur, sa méthodologie. C'est un entraîneur qu'on sait qui est très proche de ses joueurs. Et ça peut marcher avec l'état d'esprit des Brésiliens.
Oui, complètement.
Qui va très affectif, très proche d'eux. Je pense que ça, c'est le mariage, comme vous disiez tout à l'heure, peut être très beau. Après... est-ce qu'il va bien jouer, mal jouer? Je pense que le plus important, ce que les gens vont retenir, c'est est-ce qu'il va gagner ou pas.
Ça fait quand même plus rêver que Dorival Junior. Hein.
Non, mais ça, moi, en tout cas, ça me fait rêver de voir. Et c'est
Junior, là, un senior. Là.
C'est la curiosité pour moi.
Stéphane.
Oui, je suis d'accord avec lui au niveau de sa méthodologie. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été
choisi.
Il a été choisi. Et c'est un peu une opération kamikaze, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et,
Après, c'est quand même un choix fort, hein, parce qu'on sait que le Brésil a souvent eu un entraîneur brésilien. D'avoir décidé de changer radicalement comme ça, je trouve que voilà, c'est un choix fort. Il le voulait depuis 2 ans, c'est vrai, Mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Hein, mais moi, je sais que les Brésiliens, c'est la samba, c'est le beau jeu. C'est, voilà, on ne s'ennuie pas quand on regarde le Brésil. Mais on peut peut-être s'ennuyer au début.
Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que personne ne prend de risque. Ancelotti, il sait très bien qu'il a plus rien à prouver.
C'est vrai.
Le président de la fédération, ce qu'on entend, il est un peu bousculé en ce moment. Il va être défendu parce qu'il a fait un beau coup, finalement.
Un beau choix.
Mmh. Après, je pense que ça peut être que positif. Et c'est les résultats qui nous diront si ça a marché ou pas.
Éric Frozo, une dernière chose. Donnez-nous quand même, racontez-nous les détails croustillants du contrat et surtout les détails financiers de ce contrat.
Bah, le contrat, il est copieux, il est bien épais, comme on dit. Mais vous pouvez vous en douter, hein, c'est un entraîneur qui est évidemment super coté. Il va toucher, selon les estimations, autour de 10 millions d'euros par an. Donc c'est le double de ce que pouvait toucher Tite ou Dorival Junior, mais c'est normal, c'est un entraîneur international, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est son salaire de base. Il y a aussi une prime qui est prévue en cas de titre et de championnat du monde 2026. Une sixième étoile, exactement. Il pourrait toucher 5 millions d'euros en cas de succès. Une belle petite somme. Et après, bah, en ce qui concerne les détails du quotidien, il aura le droit à une voiture blindée parce qu'il était assez préoccupé par la sécurité aussi. Dans quelles conditions, voilà, Rio, comment ça se passe et tout ça. Il a posé beaucoup de questions, mais on l'a rassuré en lui octroyant une voiture blindée, une villa de luxe. Et puis aussi, on lui mettra à disposition un jet qui lui permettra de rallier donc l'Europe il sera, le voudra. Mais
il va s'installer au Brésil alors durant toute l'année ou alors il y a un laps de temps où il doit être au Brésil et
Non, c'était une contrainte et une obligation soumise par la CBF, c'est qu'il doit habiter à Rio pour s'imprégner du championnat, du football local et puis pour être crédible aussi parce que vous ne pouvez pas habiter à Madrid et diriger la sélection. Donc il habitera à Rio, mais il se rendra régulièrement, je pense, en Europe pour observer ses joueurs, tout simplement.
Il n'y a pas une plage privatisée, cigares et transat?
Oui, tout ça. Alors justement, il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Est-ce qu'il va habiter dans la zone sud, les quartiers d'Ipanema-Leblon, que Annie connaît, ou alors les quartiers plus éloignés, à Barra? C'est là où se trouve le siège de la CBF. C'est des quartiers un peu plus à l'américaine, où il faut se déplacer en véhicule, en voiture. Un peu plus sécurisé peut-être, mais beaucoup moins agréable à vivre. Donc il est face à ce choix aujourd'hui. Il n'aurait pas pris sa décision encore.
Bon, il attendra le 26 alors. Et signalons que s'il est sélectionneur à partir du 26 mai, il a un match le 5 juin contre l'Équateur de qualification à la Coupe du Monde. On sait que c'est jamais compliqué en Amérique du Sud, mais quand même. Merci beaucoup Éric Frozo d'avoir été en direct avec nous. Muito obrigada.
Obrigado, à bientôt.
À bientôt, Eric. On vous a écouté avec intérêt. C'est vrai qu'en tout cas, c'est un grand changement pour le Brésil de ne pas avoir un sélectionneur brésilien. Ça surprend un peu. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait une espèce de vacance depuis que Tite n'était pas là. Parce que les derniers entraîneurs de grands clubs brésiliens qui ont gagné la Copa Libertadores et tout, en fait, c'était pas des Brésiliens, c'était des Portugais. On a eu Abel Ferreira et on a eu Jorge Jesus. Et d'ailleurs, ils étaient sur le listing de pourquoi pas être...
Il y a une pénurie d'entraîneurs brésiliens en ce moment.
Bah oui, c'est ce que disait un des supporters en disant qu'il y a un manque finalement peut-être de formation. Messieurs, peut-être qu'il y a un poste à prendre, un jour de manager, de coach, de directeur sportif. Merci beaucoup Stéphane Billa de vous être joint à notre conversation aujourd'hui. Et revenez quand vous voulez, hein, vous voyez, la porte est ouverte dans le studio. Merci et puis Ziad, merci beaucoup.
Merci.
Il faut repasser quand vous voulez dans notre
merci
studio. Ça allait bien, là, les lions ensemble. Il n'y a pas eu de crinière échevelée aujourd'hui. Merci Yoro, merci Patrick Juillard aussi. On vous remercie et on vous donne rendez-vous demain dans Radio Foot International. Bonne soirée à tous.